Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Dans l'ouest du Niger, une attaque dans la région de Tillaberi a fait au moins 60 morts, dont le maire de Banimbongo. En Éthiopie, intensification des efforts diplomatiques pour éviter la chute de la capitale Addis Abeba. Ici aux États-Unis, des dizaines de millions de salariés devront être vaccinés contre le Covid d'ici début janvier ou subir des tests hebdomadaires. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Dans l'ouest du Niger, plusieurs dizaines de membres de milices d'autodéfense, dont le maire de la commune de Banimbongo, ont été tués mardi par des djihadistes présumés dans la région de Tillaberi, dans la zone dite des Trois Frontières. Nous faisons le point avec Michel Joseph.
Il y a eu une soixantaine de morts, 9 disparus et 15 rescapés, a indiqué un député de la région de Tillaberi. Le maire de la commune de Banimbongo fait partie des personnes tuées. Selon une source locale, les membres des comités de vigilance ont été ciblés. Ils ont eu un accrochage à Adadab, au nord-ouest, avec des éléments lourdement armés du groupe État islamique au Grand Sahara et circulant à moto. Selon cette même source, les assaillants sont ensuite repartis vers le Mali. Selon un ancien maire de la région, les villageois se sont constitués en comité d'autodéfense pour veiller sur les paysans régulièrement attaqués par des hommes armés. Depuis le début de l'année, des djihadistes présumés multiplient les assauts sanglants contre les civils dans la zone de Banimbongo et des communes voisines dans la zone dite des Trois Frontières.
Au Nigeria, après l'effondrement d'un immeuble en construction lundi à Lagos, pour l'instant, 36 personnes, 33 hommes et 3 femmes ont été retirées des décombres et il y a 9 survivants, ont indiqué les services de secours qui poursuivent leurs opérations de recherche. Le bâtiment en construction s'est effondré lundi après-midi dans des circonstances indéterminées alors que plusieurs dizaines d'ouvriers se trouvaient sur le chantier. Au Mali, le Conseil national de transition a demandé la suspension des poursuites et la libération d'un de ses vice-présidents, Issa Kaoun Jim, en détention en attendant la décision du tribunal l'ayant jugé pour trouble à l'ordre public. Le CNT a pour la première fois invoqué l'immunité parlementaire d'un des siens dans un document écrit. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara se poursuit. Sur les 12 accusés, 7 sont déjà passés à la barre. Aujourd'hui, 2 médecins militaires étaient devant ce tribunal militaire. Ils sont poursuivis pour faux en écriture publique ou authentique pour avoir établi des certificats de décès. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Alidou Djibré, le premier médecin militaire est poursuivi pour faux en écriture publique. Il a établi 3 certificats de décès, dont celui de Thomas Sankara avec la mention « mort naturelle ». Mon acte a été purement humanitaire pour venir en aide à 3 veuves, soutient le médecin. Selon lui, ce sont les épouses de 3 des victimes des événements du 15 octobre 1987, dont Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, qui sont venues lui demander de les aider en vue des formalités administratives. Dit le médecin militaire. Le deuxième médecin militaire, Amadou Kafando, 63 ans, a lui aussi délivré le certificat de décès de Bonaventure Compaoré, tué le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente. Le médecin spécialiste, chirurgien, est accusé de faux en écriture publique ou authentique. Sur le certificat de décès de Bonaventure Compaoré, ce médecin a écrit « mort accidentelle ». J'ai délivré un certificat de décès à la famille de Bonaventure Compaoré dans le seul but d'aider la veuve et les enfants. S'est défendu le médecin colonel-major à la retraite. Jean-Pierre Palme, 68 ans, colonel-major de gendarmerie et aujourd'hui à la retraite, est le troisième accusé de la journée à se présenter à la barre. Il est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il aurait assisté Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et bien d'autres dans le coup d'État qui a renversé le pouvoir de Thomas Sankara. Son audition se poursuit. Il est le septième accusé à être à la barre sur un total de 12. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Éthiopie, les efforts diplomatiques se sont intensifiés ce jeudi pour éviter qu'Addis Abeba ne soit attaqué par les rebelles du Tigré qui avancent en direction de la capitale. Le point avec Jean-Roger Bion.
Jeffrey Feltman, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique à Addis Abeba, pour plaider en faveur d'une suspension des opérations militaires et l'ouverture de discussions sur un cessez-le-feu. Yoweri Museveni, le président ougandais, a quant à lui prié les dirigeants d'Afrique de l'Est de se réunir le 16 novembre pour évoquer le conflit qui oppose le Front de libération du peuple du Tigré aux forces du gouvernement d'Abiy Ahmed. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a par ailleurs appelé à un cessez-le-feu immédiat et a demandé aux belligérants de faire preuve de retenue et de résoudre leurs différends par le dialogue. Un an, jour pour jour, après l'envoi de l'armée fédérale au Tigré dans le nord de l'Éthiopie, les rebelles du TPLF sont désormais à quelques centaines de kilomètres d'Addis Abeba. L'agence humanitaire américaine USAID a mis en garde contre une marche des rebelles sur la capitale éthiopienne qui viendra aggraver une situation humanitaire déjà désastreuse.
Éthiopie toujours, le pays ne reculera pas dans la guerre existentielle qu'il oppose depuis un an aux rebelles tigréens dans le nord du pays. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le gouvernement, semblant refuser les appels internationaux à un cessez-le-feu. Au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné la libération de 4 ministres qui étaient détenus depuis le coup d'état militaire du 25 octobre, selon la télévision d'État. Plus tôt dans la journée, un conseiller du général Burhan avait annoncé que la formation d'un gouvernement était imminente. Direction la République démocratique du Congo à présent. 6 civils ont été tués dans 2 attaques dans la région de Beni, dans l'Est, par les rebelles d'origine ougandaise, ADF. L'armée affirme avoir tué 4 rebelles. Toujours en RDC, plus de 15 000 Centrafricains fuyant des combats entre l'armée et des rebelles ont traversé la frontière vers la RDC en 17 jours, selon un bilan donné par Jano Aolo, administrateur du territoire de Bosobolo, dans le nord Ubangi. Il sollicite l'assistance des humanitaires et des autorités. La marine sénégalaise a porté secours à 82 migrants clandestins à 86 km au large de Saint-Louis, au nord du pays. La pirogue, à destination de l'Espagne, avait chaviré à cause d'une voie d'eau. L'embarcation, partie lundi de Gambie, a été repérée par un avion de patrouille espagnol basé à Dakar au titre de la lutte contre l'immigration clandestine, a rapporté l'état-major sénégalais dans un communiqué. En Gambie, le président Adama Barrow a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 4 décembre, à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale prévue la semaine prochaine. Des milliers de ses partisans ont défilé dans les rues de la capitale Banjul pendant que Barrow soumettait officiellement sa candidature à la commission électorale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des règles destinées à pousser des dizaines de millions de travailleurs à se faire vacciner contre le Covid-19 vont entrer en vigueur le 4 janvier 2022, a annoncé l'administration du président Joe Biden. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
La vaccination obligatoire pour les travailleurs cible les entreprises de plus de 100 employés ainsi que les travailleurs de la santé et les entrepreneurs fédéraux. À partir du 4 janvier 2022, tout employé de ces entreprises doit soit avoir reçu sa dernière dose de vaccin, soit se soumettre à un test COVID-19 au moins hebdomadaire, affirme l'administration Biden. La réglementation affectera plus des 2/3 de la main-d'œuvre du pays, a déclaré un haut responsable de l'administration. La croissance économique a grimpé en flèche et des millions de personnes sont retournées au travail après l'entrée en fonction de Biden en janvier, au moment où les vaccins COVID-19 sont devenus largement disponibles. Mais la croissance au troisième trimestre a chuté et l'embauche de septembre a été la plus faible de l'année alors que la vague Delta a fait monter les infections. Mardi, le président a salué la décision de la Food and Drug Administration d'autoriser les personnes âgées de 5 à 11 ans à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech comme un tournant qui va toucher 28 millions d'enfants.
Sommet sur le climat. La COP26 a enregistré plusieurs engagements sur les énergies fossiles, mais avec de grands absents, alors même qu'une étude avertissait que les émissions de CO2 sont revenues à leur niveau record d'avant Covid. au moins 19 pays, parmi lesquels de grands investisseurs comme les États-Unis ou le Canada, et des institutions financières, se sont ainsi engagés à mettre un terme d'ici à la fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture de carbone. Le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré au Vatican le pape François et plusieurs responsables du Saint-Siège qui ont évoqué la nécessité de rétablir le dialogue pour une solution à deux États au Proche-Orient dans le cadre d'une audience privée. Au Liban, le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en 2020 a été contraint pour la troisième fois de suspendre ses investigations à la suite du recours d'un ancien ministre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Rosine Mounevero.
La Commission des forêts d'Afrique centrale se félicite de la promesse de financement de 1,5 milliard de dollars pour la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Ce financement prévu pour s'étaler de 2021 à 2025 a été annoncé à l'occasion de la COP26 à Glasgow. Cette somme permettra de protéger les écosystèmes, gérer la forêt de manière durable et impulser une croissance verte. Les pays membres de l'OPEP ont entamé jeudi leur réunion avec pour objectif de statuer sur leur niveau de production de pétrole pour le mois de décembre, sous la pression des pays consommateurs qui les appellent à ouvrir davantage les vannes. La plupart des analystes tablent sur une reconduction de la stratégie actuelle, à savoir la remise quotidienne sur le marché de 400 000 barils lors du dernier mois de l'année. Le dollar américain rebondit après que la Réserve fédérale américaine a répété qu'elle considérait l'inflation élevée comme transitoire, tandis que la livre sterling a fortement chuté de 1,8% après que la Banque d'Angleterre a défié les attentes du marché et maintenu ses taux en attente. L'euro a baissé contre le dollar jeudi de 0,41%. Dans le monde des crypto-monnaies, le bitcoin était en baisse d'environ 2% à 61 589 dollars, ayant largement évolué latéralement depuis qu'il a atteint son record historique au-dessus de 67 000 dollars le mois dernier.
Et maintenant la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Tour du Faso a offert aujourd'hui une course contre la montre par équipe aux participants. L'épreuve courue entre Koupila et Zorgo, 33 km, a été remportée par le Maroc devant Tim Kibak de la Suisse et l'Algérie. Temps mis 33 minutes 37 secondes. Conséquence, Hamza Yassine de l'Algérie perd le maillot jaune. Il est désormais porté par le Marocain El Kouradji Moussine, qui a maintenant 16 secondes de mieux que Hamza Yassine.
Je suis très très heureux pour gagner aujourd'hui l'étape et gagner le maillot jaune. Mais il y a trois étapes encore pour gagner le tour. Mais moi je travaille bien avec l'équipe pour gagner Inch'Allah le tour.
Le maillot jaune marocain El Kouradji Moussine. Pour le coureur burkinabé Mathias Sorgo, la bataille se mènera jusqu'au bout.
Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de personnes et pas mal. Ceux qui seront nombreux seront à quelques secondes du maillot. Donc tout est encore jouable. Il nous reste trois étapes. On va continuer tant qu'on ne franchit pas la ligne de la dernière étape. Voilà, l'espoir est toujours permis.
Mathias Sorgo, cycliste burkinabé. L'acte 8 se dispute demain entre Koubri et Pau, 122 km. Football. L'attaquant ivoirien de Crystal Palace, Wilfried Zaha, demande à ne pas être convoqué avec sa sélection pour les deux prochains matchs de qualification pour le Mondial 2022. Zaha m'a envoyé un message pour me dire que chaque fois qu'il vient en équipe nationale, il rentre malade. Il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre car il veut réfléchir à son avenir international, explique le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel. Le coach de la Côte d'Ivoire a retenu 25 joueurs pour affronter le Mozambique le 13 novembre et le Cameroun le 16 novembre. Ultime match de la phase de groupe des qualifications pour le Mondial 2022. Pendant ce temps, au Cameroun, André Onana retrouve la tanière des Lions indomptables après avoir purgé une suspension de 9 mois pour dopage infligée par l'UEFA en février dernier. Le gardien de l'Ajax Amsterdam fait partie d'une liste finale de 27 joueurs publiée par le sélectionneur Antonio Conceição pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Pour rappel, le Cameroun est deuxième du groupe, devancé d'un point par la Côte d'Ivoire qu'il reçoit pour l'affiche de la dernière journée. NBA, Philadelphie a dominé Chicago 103-98. Denver a été battu 108-106 par Memphis. Les Brooklyn Nets ont remporté une troisième victoire d'affilée au départ d'Atlanta 117-108. La soirée a été plus compliquée pour les New York Knicks à Indianapolis, battu 111-98 par les Pacers. Les Golden State Warriors se sont promenés 114-92 devant les Charlotte Hornets.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Pierre Morin-Gigour, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Éthiopie, le conflit qui oppose les anciens gouvernants tigréens du TPLF à la coalition du Premier ministre Abiy Ahmed continue à s'étendre dans le pays. Un an après le début du conflit au Tigré, le pays s'enlise dans la guerre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a promis mercredi de noyer dans le sang les rebelles du Tigré, alors que ces derniers ont décidé de marcher sur Addis Abeba. Jean-Roger Bion, adjoint à Paris, Gérard Prunier, ancien chercheur au CNRS en France.
Ce qui n'a pas marché, c'est que le corps de combat tigréen, c'est l'ancienne armée éthiopienne. C'est-à-dire que pendant toute la période où les tigréens étaient au pouvoir, l'armée éthiopienne était à 80% composée de tigréens. Donc ils ont déserté, ils sont passés du côté de la rébellion, ils sont bien entraînés, ils sont bien équipés, donc ils gagnent la guerre.
Alors la communauté internationale semble être prise de coup ou prise par surprise par ce conflit et elle n'a aucune emprise sur les perspectives de résolution. Qu'est-ce qui explique cela ?
C'est très simple. Personne ne contrôle Abiy du côté gouvernemental, personne ne contrôle Satkan Gebretensai du côté rebelle. Donc la communauté internationale, comme on dit vulgairement en français, peut aller se faire cuire un œuf. Abiy, lui, il n'a plus de soutien international. En plus, il est désespéré. C'est un kamikaze, il ira jusqu'au bout. Peut-être qu'il finira en mourant, d'ailleurs. Mais pour le moment, les seuls qui pourraient avoir une influence sur lui sont les Chinois. Ils ont investi beaucoup d'argent et ils ont une base militaire à Djibouti, qui est la seule du continent africain, où ils ont 5000 hommes et des blindés.
Alors, les rebelles tigréens ont promis de marcher sur Addis Abeba. Y a-t-il une option pour la paix ?
Non, aucune. Et bien parce que pour la paix, il n'y a que deux possibilités. Ou vous avez vous-même une intervention militaire et vous tirez sur les gens que vous voulez arrêter. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de soldats étrangers qui vont s'immiscer dans ces combats. Ou bien vous avez une possibilité de pression diplomatique et économique et vous dites, je vous demande de faire cela, sinon il y aura des sanctions. C'est ce qu'on dit. Mais au point où on en est, plus personne n'est sensible aux sanctions. Aux sanctions. Les rebelles tigréens s'approvisionnent à l'étranger, je ne dirais pas comment ni avec qui, et le gouvernement, utilise les ressources qu'il a. C'est d'ailleurs pourquoi il va tomber, parce qu'à l'heure actuelle, il n'a plus de ressources.
C'était Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique, joint à Paris.
Madia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'environnement et l'avenir de la planète au menu de la COP26 qui se tient à Glasgow. Selon les Nations Unies, l'Afrique est particulièrement vulnérable avec près de 120 millions de personnes qui seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes. Tout ceci alors que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Peut-on encore limiter le réchauffement de la planète ? Comment limiter les effets du changement climatique en Afrique ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, après avoir entériné la désignation des membres de la Commission électorale nationale et indépendante, puis l'investiture de son bureau par le président Félix Tshisekedi, la question de la CENI continue de diviser la classe politique. Ses détracteurs accusent le président de l'Assemblée nationale de faire du forcing. Marius Mwanga a recueilli la réaction de Mboso Nkondiampwanga, président de l'Assemblée nationale.
Je peux vous affirmer Sans crainte d'être contredit, que la procédure est légale. Elle a été régulière, elle est prévue d'ailleurs dans la loi organique par l'article 12 de la dite loi.
Et cet article 12 dit quoi?
L'article 12 dit que la plénière de l'Assemblée nationale met en place une commission paritaire pour examiner le dossier des candidats désignés par le composant. Et les conclusions de cette commission paritaire sont soumises à la délibération de la plénière de l'Assemblée nationale. Et la plénière est compétente pour entériner les candidats désignés par les différentes composantes. Et c'est ce qui a été fait.
Le 6 de ce mois, il y a une partie de l'opposition et aussi de membres de l'Union sacrée, donc je parle de l'ensemble de Moïse Katumbi et d'autres confessions religieuses, qui vont marcher pour s'exprimer sur la façon à laquelle les choix des animateurs de la CENI a été fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette marche?
C'est un exercice démocratique. Je n'ai pas d'avis sincèrement donné. C'est un exercice démocratique. Nous verrons s'il y aura des gens ou il n'y aura pas des gens.
Alors, parmi ceux qui vont manifester, donc, je parlais tout à l'heure de l'ensemble de Moïse Katumbi qui fait partie de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne craignez pas que ceci crée une crispation au sein de votre groupe politique qui peut amener au départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée?
Je ne peux pas faire un procès d'intention aux membres de l'ensemble qui sont jusqu'à la preuve du contraire dans l'Union sacrée, parce que je n'ai pas entendu une déclaration de leur part de prendre une part active à cette marche. Je ne crois pas. Je crois avoir lu dans les réseaux sociaux qu'ils ne sont pas concernés par cette marche. J'ai appris, c'est ce que j'ai lu.
Bon, nous savons qu'ils se sont joints, ils vont se joindre à l'opposition pour, parce que vous savez qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon à laquelle les choses se sont passées à la CENI. C'est pour ça qu'ils vont manifester. Et vous ne craignez pas que ça crée des crispations dans votre propre groupe politique?
La liberté est garantie au sein de l'Union sacrée. La liberté est garantie, mais quand on a pris des engagements, il faut s'assumer jusqu'au bout. Il ne faut pas jouer un double jeu. Quand on est membre d'une famille politique, il y a un choix à faire.
C'était Mbuzun Kondia Mpwanga, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les agents de santé luttent pour stopper une épidémie de choléra qui a fait 13 morts cette semaine à Yaoundé et à Ekondo-Tiki, ville côtière au nord-ouest de Douala. L'épidémie qui a touché des centaines de personnes survient alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football à partir du 9 janvier. Un reportage de Moki Edwin Kimzeka à Yaoundé, relaté par Nathalie Barge.
Dans un communiqué publié cette semaine, le ministre de la Santé, Manaouda Manaki, a déclaré que des milliers de personnes à Yaoundé et Ekondo-Titi sont menacées par le choléra. À Moscou, Njikang, médecin en chef de l'hôpital d'Ekondo-Titi, a envoyé des agents de santé sur le terrain pour rechercher les patients atteints de choléra et les transporter à l'hôpital.
4 autres cas sont survenus entre hier et tôt ce matin. Nous avons prévu le transport de nouveaux cas au centre sanitaire de Bamousso. Nous avons également essayé d'améliorer l'hygiène personnelle, le lavage de mains et de tout ce qui est consommé. Nous leur disons comment purifier l'eau avant de la boire.
Des centaines de malades ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux de Yaoundé et d'Ekondo-Titi. Le gouvernement a enregistré au moins 13 décès liés au choléra dans les deux villes depuis lundi. L'épidémie survient alors que le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football à partir du 9 janvier. Yaoundé, qui doit recevoir 8 équipes, a signalé au moins 100 cas de choléra. Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, lors d'une conférence de presse mardi.
Le volume des désordures est assez important. La mairie de la ville a fait appel à une trentaine de camions appartenant à des privés pour venir en appui contre paiement au nettoyage de la ville. Environ une semaine et demie, la situation sera revenue à la normale.
La mairie de Yaoundé améliore l'approvisionnement en eau potable pour empêcher la propagation de cette maladie très contagieuse. Selon le ministère de la Santé, moins de 30% de la population visite les hôpitaux. Les agents de santé exhortent la population à orienter les cas suspects de choléra vers les centres médicaux les plus proches afin de contenir l'épidémie.
Des écrivains de la diaspora africaine ont présenté leurs œuvres littéraires à leurs compatriotes de la région. Organisée en partenariat avec le restaurant Kavacha, cette nuit littéraire avait surtout pour but de faire connaître les auteurs africains de la région et leurs œuvres, mais aussi réunir toute la communauté africaine pour un partage d'expériences et de valeurs culturelles. Plus de détails avec Thierry Kaoré.
Des œuvres littéraires sur plusieurs thématiques ont été présentées par des écrivains, tous d'origine africaine. Le docteur Gabriel Kanyi du Cameroun retrace son parcours difficile jusqu'à sa réussite ici aux États-Unis dans un livre intitulé « De rien à tout ».
Je parle de mon enfance, je parle de mon itinéraire scolaire et puis les travaux que j'ai faits pour être invité à la Maison Blanche. Ce que j'attends de la communauté africaine qui vit aux États-Unis, c'est de lire ce livre et chacun doit se retrouver dedans.
Dans le même registre, Félix Yempassis Zembrou, originaire de la Centrafrique, avec son livre « Il était une fois ma vie », revient sur son enfance, sa carrière de journaliste sous le règne du président et empereur Jean Bedel Bokassa.
Donc j'ai essayé à travers cet ouvrage de présenter plusieurs aspects du livre, en commençant par mon enfance, ma vie d'écolier, ensuite ma vie active. Et c'est cet aspect qui est le plus riche parce que il a été marqué par mon passage en tant que journaliste, le temps d'un président qu'on appelait Bokassa, président controversé pour certains, et dont j'ai tiré beaucoup d'enseignements.
L'entrepreneuriat et la vie de famille ont été également abordés. Safia Touba est originaire du Mali. Elle dépeint les violences conjugales dans deux de ses romans intitulés « Nos maris, ces grands inconnus » et « Nos épouses, ces nantes religieuses ».
Les femmes ont tendance à croire que nous sommes les seules victimes des violences conjugales, alors que les hommes aussi ont leur histoire, ils ont leur souffrance, ils ont leur douleur, ils ont leur peine. Mais les hommes parlent moins que nous, les femmes.
L'ambassadeur de la Centrafrique à Washington, Martial Ndoumbou, a salué l'initiative.
Vraiment, je suis émerveillé de découvrir que la diaspora africaine aux États-Unis s'exprime aussi à travers les livres.
Ces ouvrages ont été écrits en français ou en anglais. Le livre « De rien à tout » du docteur Gabriel Kenyi du Cameroun a été adopté par les écoles du comté de Montgomery, non loin de Washington, la capitale. La diaspora africaine à cœur ouvert, lecteurs et écrivains espèrent bientôt se retrouver pour une nouvelle édition.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal, Michel Joseph et Lionel Gallimard. Au micro, Claire Morin-Gibault. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.